Srebrenica, ce nom depuis juillet 1995, doit vous être devenu familier. C'est une ville au nord-est de Sarajevo, à peu près à 90 km.
Les Serbes utilisent aussi des gaz, comme des grenades paralysantes. Cet enfant sera le seul survivant du groupe. Épuisé, affamé, terrorisé.
Je suis resté allongé parmi les morts toute la journée. Ils sont sortis et ils les ont tués.
Il laisse derrière eux de nombreux cadavres.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Adrien Selbert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis notre studio de Paris. On va parler avec vous de cette exposition Srebrenica, nuit à nuit. C'est présenté à la Galerie Focale à Nyon jusqu'au 11 juin. C'est une série qui a été plusieurs fois primée, récompensée dans différents festivals de par le monde, on peut le dire. Et cette série s'interroge sur l'après-guerre, en particulier à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. Le livre des photographies est publié aux éditions Le Bec en l'air. On va faire un retour en arrière, si vous le voulez bien, Adrien Selbert. On est fin 2005. Oui. Vous avez 20 ans, vous décidez de partir en Bosnie avec une amie et, je reprends vos mots, le pays vous saute au visage. Et on rappelle ce qui s'est passé dans ce pays. 10 ans auparavant, le 11 juillet 1995, l'armée serbe avait attaqué l'enclave musulmane de Srebrenica et avait massacré plus de 8000 hommes en 3 jours. Est-ce que c'est ça qui vous a sauté au visage?
Alors, ce qui m'a d'abord sauté au visage, c'est d'abord ce que j'avais vu quand j'étais enfant. En fait, les images télévisées qui relataient le conflit quand j'avais 7-8 ans. C'est les premières images de violence qui m'ont été données de voir quand j'étais enfant. Et c'est des choses qui me sont restées. Et puis, effectivement, en 2005, une amie d'amis... chercher un gars qui savait tenir une caméra pour tenter de faire un premier documentaire en Bosnie. Moi, je connaissais pas le pays, je connaissais que ces images-là que j'avais vues quand j'étais enfant. Et puis je décide comme ça sur un coup de tête d'aller avec elle alors qu'on se connaissait pas vraiment. Elle était étudiante en journalisme et moi j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et on part en voiture et on fait 24 heures de voiture du sud de la France jusqu'à Sarajevo. Et Sarajevo, donc c'est la première ville que j'ai vue, c'était Sarajevo. Et on était juste 10 ans après la fin du conflit. Et la ville était encore vraiment, vraiment marquée. La vraie reconstruction arrivera dans les années qui suivront. Le Parlement qu'on a vu en flammes pendant le siège de Sarajevo était encore complètement détruit. Les maisons criblées de balles. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, en partie à Sarajevo, qui a quand même été énormément reconstruit, notamment grâce aux énormes donations qui ont été faites, et notamment par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Pour des raisons aussi politiques. Mmh. Et on a été ensuite à Srebrenica. Et pour tout vous dire, on est resté une après-midi tellement c'était lourd et l'ambiance vraiment pesante. Et ensuite, on a été tourner notre premier documentaire dans une petite ville de République serbe qui s'appelle Doboj, qui était un bastion serbe à l'époque. Et c'est vrai que ce pays m'a sauté à la figure et j'ai pas su trop quoi faire de ça à cette époque-là parce que j'avais 20 ans et que j'étais encore jeune et pas assez mature pour digérer tout ça. Le film est devenu un film d'étudiant qui vaut ce qu'il vaut, mais ça a été une première porte ouverte vers ce pays-là et je n'ai cessé après d'y retourner.
Et lorsque vous y retournez, Adrien Selbert, pour en venir à cette série de photographies, on rentrera dans le détail de tout ce que vous avez fait sur place, dans ce qu'on appelle désormais l'ex-Yougoslavie. Mais lorsque vous y retournez, alors vous vous y installez carrément à Srebrenica, vous n'êtes pas à l'hôtel, vous logez dans un appartement. Et dans cette série de photographies présentées à la Galerie Focale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des photos prises toutes, absolument toutes, de nuit. Et on y voit la jeunesse de Srebrenica.
Oui, alors... Pour raconter un peu comment j'en suis arrivé à la jeunesse, c'est vrai que j'ai réalisé d'abord un premier documentaire à Srebrenica en 2008-2009, avec cette même personne avec qui j'étais, cette même collègue Audley Rapin, qui est depuis devenue une excellente réalisatrice, avec cette première envie de parler de la jeunesse. Et puis finalement, une autre histoire nous est tombée dessus. On a fait un autre film sur Aira Čatić, qui est la leaderuse des femmes de Srebrenica. Et l'histoire raconte la recherche de son fils qui a été massacré pendant le génocide. Mais restait chez moi cette frustration de n'avoir pas parlé de la jeunesse, et surtout de cette jeunesse qui a 20 ans, donc il y a eu à 20 ans quand j'ai commencé la série en 2014, et qui est donc née soit pendant la guerre, soit juste après, et qui quelque part est injustement née dans cette ville. Et c'est vraiment cette question-là qui m'intéressait, c'est l'injustice d'être née quelque part et de devoir, de n'avoir aucun rapport avec ce conflit, avec cette horreur, si ce n'est des parents ou des liens filiales, et d'être injustement née à cet endroit et de devoir porter ce sacerdoce-là. Mmh. Je pense que, de toute façon, en général, quand on s'intéresse à un territoire ou à un lieu, je trouve que la jeunesse est toujours une porte d'entrée juste et révélateur je pars toujours du principe que la jeunesse a toujours raison, et d'autant plus les jeunes de 20 ans. Et c'était vraiment cette question-là qui m'intéressait, c'est comment vit-on quand on a 20 ans dans une ville marquée à jamais par l'horreur? Comment vit-on à 20 ans à Auschwitz? Comment vit-on à 20 ans à Nagasaki, au Rwanda, et là en Bosnie, effectivement à Srebrenica, qui était vraiment l'épicentre de l'horreur de cette guerre?
Alors, pour aller à la rencontre de la jeunesse, vous êtes sorti le soir, en gros, si je résume un peu votre pensée.
Oui. Alors, effectivement, au départ, j'ai commencé à faire des images de jour. Et puis, il se trouvait que j'avais déjà quelques amis là-bas, puisque j'avais passé déjà pas mal de mois pour le film documentaire que j'avais fait quelques années auparavant. Mais je connaissais plutôt les grands frères et les grandes sœurs. Et je ne connaissais pas encore cette génération-là qui, pour le coup, avait 8-10 ans de moins que moi. Et la meilleure manière de rencontrer les jeunes, c'est de traîner là où ils traînent, c'est-à-dire de traîner dans les bars, de traîner dans la rue, de faire les mêmes journées qu'eux, c'est-à-dire de se lever à midi, de commencer à picoler parce qu'il s'agit de picoler, dans l'après-midi, de traîner et même de s'ennuyer. Et je pense que, le travail que j'ai tenté de réaliser, c'est un travail avant tout sur le temps, sur cette après-guerre là, sentiment particulier de l'après-guerre à Srebrenica. Et je pense que la meilleure manière de justement de pouvoir expérimenter cela et pouvoir l'éprouver, et pouvoir le rendre visible, c'est de l'éprouver soi-même.
C'est la méthode d'acteur studio appliquée aux photographes.
Quelque part, je trouve qu'il y a une juste distance à trouver. Je pense qu'il ne faut pas chercher à imiter les gens ou à être trop proche, parce qu'il ne faut pas tomber dans la complaisance. Parce que quoi qu'il arrive, on restera un Français ou un étranger d'Europe de l'Ouest qui vit dans un pays hyper cool, qui a des opportunités, qui a de la chance. Donc il ne faut pas faire semblant d'être de ce qu'on n'est pas, mais je pense que il faut en tout cas chercher à éprouver ce que ces jeunes-là éprouvent au quotidien, c'est-à-dire énormément d'ennuis. Il y a un taux de chômage en Bosnie qui est, je crois, de 60% chez les jeunes. Le salaire moyen, c'est 400 euros par mois. La nourriture n'est pas forcément très chère et tout, mais tous les produits normaux, type vêtements et tout, c'est parfois les mêmes prix qu'en Europe. Donc c'est quand même un pays qui est quand même extrêmement pauvre. Cette série-là, je l'ai réalisée en traînant dans la ville avec eux, en errant avec eux, en buvant avec eux, en fumant avec eux. Euh, et, Voilà comment s'est réalisé ce travail-là.
Ce travail, on le rappelle, il s'intitule « Nuit à nuit ». Ça se passe à Srebrenica, série de photographies prises par notre invité Adrien Selbert et s'est présenté à la galerie Focal à Nyon. Vous restez avec nous, Adrien Selbert. On va se tourner du côté de Raphaël qui nous raconte que l'année la plus chaude de tous les temps, elle est dans sa chanson et on revient à vous juste après.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.
L'année la plus chaude de tous les temps, Raphaël dans Vertigo. Notre invité est le photographe français Adrien Selbert. Je vous rappelle cette exposition à voir à la galerie Focal à Nyon, Srebrenica, Nuit à Nuit. Série de photographies dont vous nous avez raconté la genèse, Adrien Selbert, ces nuits passées avec cette jeunesse de Srebrenica qui s'ennuie ferme, dont le taux de chômage avoisine les plus de 60% et qui doit faire face à beaucoup de difficultés. On l'a dit donc, forcément ces photos sont prises la nuit. Alors d'une part, bien sûr, c'est pour aller à la rencontre de cette jeunesse qui s'occupe le soir, comme elle peut. Mais est-ce que c'était pas aussi pour donner un supplément de mystère à vos images? Parce que toutes vos images sont empreintes d'un certain mystère, je trouve.
Alors, oui, alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est effectivement que la nuit, c'est le moment où la jeunesse un peu reprend sa ville, entre guillemets. C'est-à-dire que effectivement les vieux ou les adultes rentrent à la maison et la ville appartient aux jeunes le soir venu. Mais il y avait aussi l'idée de traduire la comment dire, comme si la nuit de l'histoire était tombée sur cette ville-là et ne s'était jamais vraiment relevée. Et il y avait l'idée de traduire comme ça ces jeunes corps, cette jeunesse, comme enfermée dans la nuit
passé,
d'histoire.
En fait, ouais.
Oui, voilà. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce questionnement autour de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'est une après-guerre ? C'est-à-dire, on sait quand ça commence, une après-guerre, mais quand est-ce que ça se termine ? Et y a-t-il un après à l'après de la guerre, au fond ? Et j'ai le sentiment en Bosnie, et particulièrement à Srebrenica, que le temps s'est figé, en fait, dans cette espèce d'éternel après-guerre qui n'en finit jamais, dans cette espèce de nuit éternelle. Et la nuit permet aussi de... J'avais pas envie de faire des images qui soient trop axées sur la destruction, sur les séquelles qu'on peut voir sur les murs, même si elles apparaissent dans les photos, mais elles apparaissent toujours un peu en second plan. Mmh. Et la nuit permettait d'un peu rendre effectivement les choses, de laisser comme ça des indices, des traces, mais d'être pas non plus dans un rapport très frontal. Et effectivement, la nuit permet de construire des images qui sont... qui invitent au regard, en fait, qui ont assez de mystère pour que le regardeur puisse s'approcher de l'image et puisse d'abord voir l'image comme une composition d'abord picturale, parce qu'il y a un travail sur la lumière qui a été fait, et ensuite puisse se dire: ah tiens, c'est écrit en cyrillique, ah oui, là il y a des traces de Baal, et voilà, et comme ça accéder à cette ville, accéder au contexte historique. Et c'est toujours ce que je cherche à faire, c'est-à-dire de construire des images qui puissent être autant appréciées par des gens qui sont des, non pas des spécialistes de la Bosnie, mais en tout cas qui connaissent un peu le contexte, mais aussi des gens qui n'y connaissent rien du tout. Mmh. Et par ce biais-là, de pouvoir justement aller à la rencontre de cette histoire.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les images qui peut justement amener celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire ou qui ne s'y sont pas intéressés, peut-être, ou qui ont oublié tout ce qui s'est passé effectivement dans ce qu'on appelle désormais l'ex-Yougoslavie. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, Adrien Selbert, que l'œil accroche et amène celui ou celle qui regarde à se poser des questions?
Ça, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour le définir. Je pense que
ah, vous avez fait les images quand même.
Oui, non, bien sûr, mais je pense que c'est pas toujours bien quand un photographe a trop, oui, conscience de ses images. Je pense que c'est bien d'avoir laisser une part comme ça d'inconnu, ou en tout cas une ouverture.
Pour vous aider, alors pour aller dans votre sens, Adrien Selbert, moi ce qui m'a frappé, c'est à la fois cette fatigue, cette sorte de fatigue ou de lassitude que l'on voit sur ces visages, mm-hmm, et ces regards qui sont comme résignés, ou qui serait le regard de jeunes filles, de jeunes gens, qui sont très conscients du poids qu'il y a aujourd'hui sur leurs épaules et de ce dont ils,
ouais,
sont les héritiers.
Oui, oui. Et c'est vraiment ça que j'ai cherché à traduire à photographier. C'est cette ambivalence de sentiments chez cette jeunesse-là. C'est-à-dire que...
Parce qu'ils sont en train de faire la fête, mais on n'a pas l'impression qu'ils font la fête, en réalité.
Ben, voilà, c'est-à-dire, c'est un peu des fêtes tristes, effectivement, même si ça, faut pas croire que ces jeunes-là, ils pensent quotidiennement à ce qui s'est passé. Justement, ils essayent d'oublier. Mais il y a de toute façon, ils sont de toute façon vus comme soit des fils de bourreaux s'ils sont serbes, soit des victimes, des fils ou des filles de victimes s'ils sont bosniaques musulmans. Et ça, ils l'ont pas demandé. Et ils n'ont pas demandé à ce qu'on les regarde comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc que moi j'ai éprouvé les premières fois où je m'y suis rendu. C'est que de toute façon, j'étais un étranger, un Français, et que de toute façon, je venais pour aller chercher ma gloriole en faisant des images d'après-guerre à Srebrenica. Et c'est pour ça que très vite j'ai cherché à faire autre chose, et très vite j'ai cherché à éviter de faire tous ces clichés qu'on a vus et revus sur la Bosnie, qui sont utiles, parce que c'est des images qui ont permis d'alerter l'opinion, et tout travail est utile, et autant un travail photojournalistique qu'un travail plus artistique, plus documentaire. Mais moi, je voulais aller au-delà de ça, et justement ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce mélange de fierté chez ces jeunes-là, de colère, de rage et de résignation, parce que la situation, elle est là-bas, elle est sans issue. C'est-à-dire que le pays est véritablement coincé dans un présent qui n'existe pas, qui tourne en rond, un passé qui est toujours très présent dans les murs, dans les esprits, dans l'esprit des gens, et un futur qui est juste inenvisageable. Parce que la Bosnie, ça reste un pays où il y a une corruption qui est très 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 puissante. Et Srebrenica, qui a été pour le coup une ville symbole, a reçu énormément de donations après-guerre, énormément d'aide. Mais cette jeunesse-là s'interroge. Où a été l'argent? Où va l'argent? Alors, il y a effectivement des bâtiments qui ont été reconstruits, il y a eu des déplacés qui ont pu revenir dans la ville. Il y a un mall, comme ça, un supermarché gigantesque, mais à moitié vide, qui est au centre de la ville. Il y a un hôtel qui est en construction depuis 5 ans, qui est toujours pas terminé. Et pourtant, on sait qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers d'euros et de dollars d'investis. Mais beaucoup d'argent a été détourné, en fait, ouais. Et parti ailleurs. Et c'est vraiment le problème de ce pays-là, en fait. C'est que ce pays-là aurait pu vraiment renaître un peu comme a été l'Allemagne après-guerre, où la reconstruction, grâce au plan Marshall, s'est faite à une vitesse folle. Sauf que l'erreur des Bosniaques, d'après ce qu'on m'a raconté, je l'ai pas vérifié, mais semble-t-il, les Allemands auraient offert à la Bosnie, juste après la guerre, le même plan Marshall pour se remettre d'aplomb. Et avec tout leur esprit fier slave, les Bosniaques ont dit « Non, non, mais on va se débrouiller nous-mêmes. » Et voilà. Et donc, il y a effectivement c'est un peu un cliché de dire ça, mais il y a un peu cette fierté slave et dans ses regards, et à la fois une résignation, une mélancolie propre à ce pays-là que je cherchais justement à restituer.
Adrien Selbert, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, ce sera l'heure de retrouver Christine Matté pour le journal. Je rappelle que si vous êtes notre invité, c'est à l'occasion de cette exposition à voir absolument. C'est à la galerie Focale à Nyon. Ça s'appelle Nuit à Nuit. Vos photos prises de nuit, vous l'aurez compris, à Srebrenica. Voici une chanson de circonstance, en l'occurrence. Écoutez.
Thank you.
Elle s'appelle Amira et Thierry Sartoriti vient de me confirmer qu'elle serait très bientôt en concert au TPR de La Chaux-de-Fonds.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Adrien Selbert, lorsqu'on se rend sur votre site internet, on peut y voir quelques-unes des photographies que vous avez prises à Srebrenica, mais aussi ailleurs, et notamment toute une série consacrée à ce qui s'appelle La Marche, une marche en hommage aux plus de 8300 hommes massacrés, donc on le rappelle, ce fameux 11 juillet 1995, lorsque l'armée serbe a décidé d'attaquer l'enclave musulmane de Srebrenica. C'était au départ une marche qui rassemblait très peu de gens, qui petit à petit, les années passant, a grossi de plus en plus, et qui aujourd'hui, pour faire écho à ce qu'on racontait sur cette jeunesse que vous avez photographiée, un petit peu désœuvrée, cette jeunesse, pas vous, mais à Srebrenica, cette jeunesse qui aujourd'hui prend la tête du cortège comme une forme de revendication, comme si elle s'appropriait l'histoire.
Oui. En fait, cette marche-là, je l'ai fait donc la première fois que j'étais en Bosnie en 2005, donc il y a 12 ans maintenant. Et c'est une marche donc qui est commémorative du génocide et qui part des territoires libres, des anciens territoires libres près de Tuzla, en fédération bosno-croate actuellement, et qui refait la route à l'envers, comme on pense une plaie, vers Srebrenica. Et donc c'est une marche qui dure 3 jours dans la forêt. La première année, on a traversé des champs de mines. C'était vraiment dans les conditions qu'avaient éprouvées ces hommes-là. Alors c'est pas du comparable, mais en tout cas le tracé était à peu près le même de cette colonne de 10 000 hommes qui avaient fui la ville de Srebrenica lorsque les troupes serbes sont arrivées. Et puis cette marche-là, donc la première année on était 500, essentiellement des vétérans, des survivants, des proches de ces gens-là, et puis quelques internationaux, notamment Ivar Peterson, qui est un Suisse, qui est à l'origine de l'organisation de cette marche. Et puis les années passant, donc je l'ai fait plusieurs fois, et puis le cortège s'est mis à grossir et c'est devenu un important événement en Bosnie, et un événement qui est devenu, à mon avis, éminemment politique, éminemment revendicatif. Très vite, on a vu venir des gens d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Turquie, et cet événement qui était au départ commémoratif, donc, est devenu religieux et religieux politiquement, avec des étendards, une jeunesse qui a, alors pour le coup, là, c'est des gamins qui ont 12, 15 ans, 17 ans, qui ont toute l'énergie de faire les 3 jours de marche sans être fatigués, et qui sont toujours à la tête du cortège et qui s'amusent tristement à crier, par exemple, à la Wakbar quand on traverse des villages serbes. Et ça m'a vraiment frappé. Et donc ce travail-là que j'ai commencé à effectuer donc il y a quelques années, donc je vais refaire la marche l'été prochain, parce qu'en fait, ça va être le chapitre final d'un grand projet qui s'appelle Les Boréels, qui est un projet sur toute la Bosnie. Et Srebrenica Nuit à Nuit est le chapitre zéro. C'est vraiment le point de départ de ce voyage-là. On part de la nuit de l'histoire, on part à la rencontre du pays. Et à la fin, on finit avec cette marche qui refait le chemin à l'envers et qui nous ramène à l'épicentre du traumatisme qui est la ville de Srebrenica. Et effectivement, cet événement traduit vraiment l'ambivalence aujourd'hui de la situation en Bosnie, où on mélange commémoration et revendication politique. Et on a toute une jeunesse qui, elle, pour le coup, a aujourd'hui 15 ans, 17 ans, qui n'a pas du tout connu le conflit et qui pour le coup, se radicalise d'un certain côté. C'est-à-dire que, vu que le pays n'offre aucune perspective à cette jeunesse-là, on le sait, c'est des terreaux qui sont fertiles à la radicalisation, notamment chez ces jeunes-là, bosniaques, musulmans, à un islam un peu plus politique. Et donc, on a un retour de la religion, qui est un peu, à mon avis, à mon expérience, un peu moins prégnant chez les Serbes, quoique. Mais voilà, on a ce phénomène-là qui revient et qui me fait vraiment penser que... Alors, je ne pense pas que la guerre reviendra en Bosnie, même si il y a des gens qui le pensent, qui le disent. Je pense que le contexte est trop compliqué pour que ça arrive et tout. Mais en tout cas, on a un vrai retour... un vrai retour du religieux, un vrai retour de revendication identitaire.
Qui a commencé, si on le comprend bien, par le financement de diverses reconstructions dans cette partie-là. par le Qatar et l'Arabie Saoudite.
Oui, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas des sujets, encore une fois, je ne suis pas journaliste, ce n'est pas des sujets que j'ai étudiés, mais alors, c'est clair que quand on arrive à Sarajevo, ça, c'est une chose qui saute aux yeux, c'est le nombre de mosquées qui a pullulé après-guerre. Je ne sais plus combien il y en a à Sarajevo, mais c'est 400 mosquées, quelque chose comme ça, des mosquées flambant neuves, immenses. Et oui, il y a eu une vraie volonté de la part de ces pays-là de profiter, entre guillemets, de la situation fragile du pays juste après-guerre pour investir et pour investir l'esprit de cette jeunesse, investir les rues. Alors là, j'ai l'impression de dresser un tableau un peu noir, ça reste encore assez sobre, mais c'est pas une chose, je trouve, très très rassurante, et c'est d'autant plus triste que la Yougoslavie d'avant-guerre était justement une société multiculturelle, était vraiment un exemple de cohabitation. Alors après, sous l'ère Tito, effectivement, la religion était un peu bannie, c'était
sphère personnelle et privée.
Voilà. Ouais. Et Sarajevo était un vrai exemple de multiculturalité, c'est un mot compliqué à prononcer, et notamment parce que Sarajevo, c'est vraiment le centre de l'Europe, et on y voit vraiment la rencontre entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et on a vraiment cette rencontre-là des deux cultures dans le paysage, et c'est quelque chose de très beau, très appréciable. Et je pense que la force de la Bosnie, c'est de tenter de maintenir là cette cohabitation paisible, et malheureusement la situation financière fait que c'est pas le cas pour l'instant. Ouais.
Vous avez également, pour aller un petit peu plus loin, fait un reportage à Sarajevo sur les communautés LGBT, donc homosexuels, trans, gays, enfin qui là aussi montre une forme au fond de, enfin une volonté de vivre dans un pays qui soit alors aussi pacifié de ce point de vue là.
Alors oui, cette série-là fait partie de ce grand projet-là, Les Borels, en fait, qui est un projet que je mène depuis un an et que je vais terminer, je pense, dans 6 mois, 1 an, qui donc a pour objectif de tenter de cerner les comptoirs du territoire bosniaque en partant du postulat que la Bosnie n'existe pas. Que depuis justement le traumatisme de Srebrenica, le pays est comme tombé dans les pommes, il s'est comme évanoui. Et ma mission de photographe, c'est de tenter de saisir ce territoire évanescent. Et c'est autant un état des lieux qu'un état du temps, justement, de tenter de traduire cette espèce de temps indéfinissable qu'est l'après-guerre. Et donc ça passe donc par ces deux séries à Srebrenica, qui sont les points de départ et points d'arrivée. Et ça passe par plein d'autres travaux que je mène, donc notamment cette série sur la jeunesse LGBT à Sarajevo. Mais aussi, là, j'étais en Bosnie, je suis revenu hier. J'ai passé une semaine dans un village qui s'appelle Kravica, qui est un village pas loin de Srebrenica, et où il y a une immense croix orthodoxe. Et il a été perpétré un massacre par les Bosniaques sur les Serbes en 92, et qui est un bastion très nationaliste. Et j'y ai passé une semaine pour la Vaskers, qui est la PAC orthodoxe. Mmh. Et voilà, et sa vocation est être un projet multimédia, hybride, qui mélange de la vidéo, de la photo, mais aussi du GIF animé, par exemple. Et qui a pour vocation de traduire cette mosaïque qui compose la Bosnie. Et pour revenir sur les LGBT, j'avais vraiment envie de justement m'intéresser à la minorité dans les minorités. Et d'autant plus dans un pays qui, justement, on constate un retour du religieux. Une société qui quand même a un héritage patriarcal très, 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 très présent. Et voilà, et qu'est-ce que c'est d'exister en tant que gay, lesbien, queer dans cette ville-là. Et donc voilà, j'ai entamé une série de portraits sur ces gens-là.
Alors on va aller, si vous voulez bien, un petit peu plus loin encore dans la transgression, Adrien Selbert, puisqu'on va accueillir à nouveau Laurence Roidevaux, et avec elle nous allons parler de Jean-Louis Coste. S'il vous plaît, éloignez les enfants du poste, merci.
Oh, c'est pas de ma faute, c'est pour jouir. Faut que je me branle dans ma mère.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.
Vertigo. sur la première.
Qu'est-ce qu'on a entendu, Laurence Froidevaux ? Bonjour.
Bonjour Pierre-Philippe. D'abord, excusez-moi, hein, qu'est-ce ? Eh bien, on ose à peine répéter ces propos tant ils sont crus. Vous avez entendu le mot merde, le mot jouissance. La voix que vous avez entendue, c'est celle de Jean-Louis Coste, artiste très marginal que j'ai enregistré lors de son passage au Bourg de Lausanne. Il a ensuite joué à Genève. Alors, pourquoi en parler,
oui,
me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous que Coste se produit depuis plusieurs décennies en Europe, au Japon et aux États-Unis. Alors, certes, dans de petites salles, mais c'est un genre qui existe, qui a son public, genre trash, provoque, scatologique, pipi-caca. Le show que j'ai vu s'appelle Kiss from Paris, sous-titré opéra, porno, social. Alors j'y ai vu pour ma part ni opéra, ni porno, ni social. Par contre, c'est vrai que le slogan est assez accrocheur.
En effet. Alors à quoi ça ressemble en vrai ?
Visualisez une petite scène. Sur le plateau, vous avez cet homme seul, Coste, très sec, très maigre, la soixantaine, avec une multitude d'accessoires bizarroïdes dont il va s'emparer au fur et à mesure de son spectacle. Par exemple, un poulet, un bébé, un crucifix en carton. Il se met rapidement tout nu, il mime des actes sexuels, d'abord avec le poulet, puis avec le bébé. Il lance du faux caca sur le public, du champagne, il joue au petit violon. Je n'ai pas goûté. Il joue au petit violon, non pas avec un archet, mais avec un sexe en plastique. Enfin, vous avez des images là. Hein.
D'accord, sexe en plastique, poulet en plastique, bébé en plastique.
Oui, ce sont des faux. Il y a un côté crado totalement assumé. Et puis au niveau esthétique, ça fait un peu cirque de rue. Tout est bricolé et semble sorti d'une poubelle. Quant au son et aux paroles, les voici.
Pourquoi je suis plus joli ? Pourquoi je suis plus gentil ? Pourquoi je suis plus petit ? Merde, ça sonne. Putain, c'est ma mère ! J'ai mis le soutien-gorge de ma mort, les mecs ! J'ai mis le soutien-gorge !
Il parle, il chante, il crie, il hurle, il saute, il se déshabille très rapidement pour finir presque nu, ça je vous l'ai déjà dit je crois. Il finit donc en string avec un très grand faux sexe en érection collé sur le ventre. Il y a des sons, de la musique bruitiste, ça part dans tous les sens.
À chaque fois c'est pareil, je déborde et je regrette les plumes de son qui me collent au doigt. Ça dégoûte, j'ai la tête dans le cul, la tête dans le cul.
Bon, vous l'entendez, hein, Pierre-Philippe, c'est fort, c'est rapide, c'est hurleur, on n'est pas exactement à l'opéra.
Est-ce que c'est choquant ?
Oui, je trouve, c'est clairement obscène, scatologique, outrancier. Parfois drôle, je l'avoue, jusqu'au boutiste.
Ah, vous avez ri quand même.
Ouais, mais malgré moi, un sourire nerveux. C'est jusqu'au boutiste, c'est quasi indéfendable. Et c'est certainement pour ça, parce que c'est indéfendable, qu'il y a un public.
C'est un côté libérateur et bêtement marrant dans ce cas de plus dégueulasse. C'est marrant ce côté pipi-caca qui fait rire les enfants comme les adultes. Et
bien, en même temps, on sait qui il est, on sait ce qu'il fait. Donc je pense qu'il y a un côté psychanalytique à ça, après.
Moi, je trouve que ça a un côté libérateur et marrant, ces concerts. Et j'ai pas envie d'y chercher plus de chance que ça, parce que sinon, c'est inquiétant, quoi. Mais ils transgressent tout pour qu'on ait pas besoin de le faire nous-mêmes, quoi. Touché, je dirais pas. Je dirais que j'ai été recouvert d'excréments, mais...
Pour de vrai ?
Bah, il y a un concert où il a pissé dans le public. Heureusement, j'étais juste assez loin. Et après, il a balancé ce qu'on pensait être de la merde dans le public, mais qui, en fait, en était pas. Mais donc, figurativement, non, mais intellectuellement, un peu, quand même.
C'est vrai qu'il touche à beaucoup de sujets qui sont très tabous, et je pense qu'au-delà de simplement aller le voir, faire des conneries sur scène et rigoler, je pense qu'il y a une part de vrai. Il touche à des tabous, en tout cas, ça fait réfléchir. Donc c'est tellement spécial, tellement bizarre que on reste un peu sans voix face à ça. Mais ça interpelle en tout cas.
C'est bien anal, quoi. Donc ça peut l'être, quoi. Donc ça peut gêner pas mal de gens, quoi. Autant des mecs que des filles, quoi. Ouais.
C'est étrange. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire sa musique.
Ça met mal à l'aise.
Ça nous met face à nos contradictions parce qu'il va vraiment dans l'extrême, dans la scatologie. Donc ça peut mettre certaines personnes à l'aise, surtout ceux qui ne connaissent pas l'artiste. Alors ça me touche dans les instincts les plus bas de l'homme parce que ça parle beaucoup de merde, voilà. Donc c'est quelque chose de très cru, donc il y a quelque chose de cathartique un peu dans cette expérience. Et on se laisse vraiment aller jusqu'à les instincts, dans les bas-fonds de l'humanité, on va dire.
le public de Kiss from Paris, la performance de Jean-Louis Coste. C'était, faut le dire, quand même intéressant d'entendre ceux qui y trouvent quelque chose.
Absolument, et puis de ne pas mépriser ça, ça questionne notre rapport à la norme, à la transgression, ce qu'on ose dire, faire, montrer. Jean-Louis Coste, il ose tout. Et je comprends, franchement, que ça puisse être jubilatoire pour certains. Pour moi, le problème, c'est que ça décolle pas, on reste au niveau où c'est présenté, il n'y a pas de sublimation, pas de poésie. Cela dit, je suis pas sûre que ce soit l'ambition de Jean-Louis Coste. Il faut lui laisser ça, je pense qu'il se prend pas au sérieux. Il y a un côté un peu gaguesque et potache.
Merci, Laurence Roidevaux.
Mais je vous en prie, pour ceux que ça intéresse, Jean-Louis Coste a son propre site internet et il se produit régulièrement dans des petites salles. C'est évidemment, on l'a compris, strictement interdit au moins de 18 ans.
Et Jean-Louis Coste sera à vos côtés, méfiance, oui, sur le plateau de la Puce à l'oreille ce jeudi soir vers 22h40 sur RTS 1. Et on revient à vous, Adrien Selbert, après ce que l'on vient d'entendre, Jean-Louis Coste, qui paraît très dérisoire par rapport aux problématiques qu'on a évoquées de cette jeunesse de l'ex-Yougoslavie, d'une façon générale, de Srebrenica et de Sarajevo en particulier, qui se bat tout simplement pour trouver du boulot, ou exister, ou vivre au grand jour ses amours interdits dans ces pays-là. Je voulais que vous entendiez ce reportage consacré à Jean-Louis Coste, parce que vous aviez suivi dans des manifestations des casseurs, pour le quotidien Libération, ça avait donné lieu à un article, c'était en 2016, et le titre de l'article c'était, je le cite, « Il y a des moments où c'est intelligent d'aller tout péter ». Est-ce que, d'après vous, ces casseurs que vous avez rencontrés suivent là, au fond, la même démarche que Jean-Louis Coste depuis 30 ans? Il essaye de tout faire péter pour faire avancer le schmilblick, entre guillemets.
Ouais, enfin, oui, il y a une volonté de transgression totale chez les casseurs, et je pense qu'une société a toujours besoin des extrêmes. Elle a besoin de ces extrêmes-là parce que c'est eux qui justement donnent les limites, justement les points à atteindre ou à ne pas atteindre. Et notamment pour la loi travail, pour revenir sur les casseurs, je vais pas me faire le chantre de la casse et de la destruction des banques et quoi que ce soit, mais je pense que déjà il y a un niveau d'exaspération chez la jeunesse en France qui est très élevé, alors qu'une génération dont je ne fais plus partie malheureusement
depuis
mais
peu.
En tout cas chez la jeunesse qui a 20-25 ans, on n'est pas au niveau bosniaque, mais il y a une vraie frustration, et je pense que oui, des fois il est intelligent d'aller en tout cas attaquer les symboles du pouvoir et de cette frustration qui sont notamment les banques, qui sont les institutions, et voilà, il faut arrêter aussi de, je veux dire, il n'y a pas eu de meurtre, et je pense que notre société, notamment cette société néolibérale dans laquelle on est, qui a tendance à être dans une espèce de centrisme mou et bien confortable, je pense qu'on a besoin de performances comme celle de Monsieur Coste et de nos casseurs qui justement permettent de décharger cette colère, cette violence et de voilà, on a besoin de cette transgression-là, pardon.
Alors Coste, il tourne dans le monde entier avec ses performances, aux États-Unis, au Japon, enfin partout où semble-t-il la liberté d'expression est un fait bien établi. Je suis pas certain qu'à Sarajevo ses performances soient perçues de la même façon.
Ah non, ce serait impossible. Je pense que non, ça
c'est un marqueur
pas...
quand même d'un état de la liberté d'expression.
Évidemment, ouais. Évidemment, totalement. Là, donc, j'étais à Sarajevo le week-end dernier. On a fait une manif pro-LGBT dans la ville. Enfin, justement, pas dans la ville. Le défilé a été, alors non pas interdit, mais en tout cas pas autorisé.
Ouais.
Donc, la manifestation a eu lieu dans un parc en face de la présidence. Il y avait, une trentaine de gens. Donc ça montre bien les limites entre la Gay Pride qu'on peut avoir à Paris, à Berlin ou à Londres, et ce qu'il est possible de faire dans ces pays-là. Donc une performance scatologique, malheureusement, si un jour ça a lieu en Bosnie, ça veut dire que les choses iront
bien. Ce sera bon signe.
Ouais. Et je souhaite qu'un jour il y ait des performances scatologiques à Sarajevo, à Srebrenica ou ailleurs. Ouais.
Adrien Selbert, on va bientôt se quitter. Je rappelle que cette exposition s'intitule Nuit à nuit. Vos photographies prises de nuit à Srebrenica en compagnie de la jeunesse de cette ville en reconstruction, mais on l'aura compris, en reconstruction très très lente. Vous êtes toujours très ancré dans cette partie du monde, c'est cette ancienne Yougoslavie.
Oui, bah alors, en tout cas pour encore un an. Encore un an, c'est vrai que le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Les Borel, c'est un peu pour en finir avec la Bosnie, entre guillemets, même si je pense que je continuerai à y revenir parce que j'y ai des amis. Et puis en fait, on ne sait jamais, je pense que j'aurais toujours envie, ah tiens, il y a ça à raconter. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, c'est un territoire que je connais maintenant depuis 12 ans, c'est un territoire où j'ai vécu, où j'ai beaucoup de liens. Mais commence à poindre en moi le désir d'aller investir à un autre territoire. Et voilà, j'ai fait quelques travaux en France comme ça, mais des choses effectivement assez brèves, comme sur les casseurs et tout. Et je pense que oui, courant 2018, j'irai peut-être investir à un autre territoire, mais je ne sais pas encore lequel. On verra.
Ce sera une affaire à suivre avec vous, évidemment, Adrien Selbert. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle cette exposition à voir jusqu'au 11 juin 2017. Oui. C'est à la galerie Focale et ça se trouve à Nyon. Ça s'appelle Nuit à Nuit. Merci beaucoup. À très bientôt, Adrien
Selbert. Merci pour votre invitation.
Je vous en prie.